Si vous vous êtes déjà demandé quel était le véritable prix de la liberté, cette histoire pourrait vous intéresser. C'était une douce nuit d'avril 2016, et je n'allais pas tarder à toucher le fond. J'allais bientôt fêter mes 25 ans, et depuis que je m'étais installé à Paris 3 ans plus tôt, rien de ce que j'entreprenais ne fonctionnait. Mon dernier projet de film s'était effondré pour la 4e fois, et j'étais en train de perdre le peu d'espoir qu'il me restait. Ce soir-là, en rentrant chez moi d'un énième tour du quartier, j'ai fait l'inventaire de mes perspectives. Quand soudain, dans la pénombre de ma rue, un son familier parvint à mes oreilles. C'était un son très spécial. Le restaurant italien qui était au bout de la rue fermait ses portes et l'un des serveurs qui m'a vu planter là en sortant m'a dit le nom du mystérieux voisin. J'avais le sentiment d'avoir déjà vu ce nom quelque part, peut-être dans les disques de ma mère. Alors je suis rentré chez moi et j'ai été voir sur Google. Mon voisin était né en 1922 à Haïfa, aujourd'hui en Israël, qui, drôle de coïncidence, était aussi la ville de naissance de ma mère. Il avait donné son premier concert à l'âge de 7 ans, a émigré à Paris pour entrer au conservatoire à 11 ans, puis a joué avec le Philharmonique de Londres, le Philharmonique de New York, ceux de Vienne et de Los Angeles, et à peu près tous les grands orchestres du monde. Il avait joué avec Lennon, les Stones, Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Stéphane Grappelli, Barbara, Marcel Marceau, et tant d'autres.
Sept plus grands violonistes du monde.
Le grand violoniste du siècle.
Il m'a fait la grande joie de venir
hier aux États-Unis aujourd'hui en France.
Monsieur Ivry Gitlis.
Un drôle de frisson me parcourut. Je n'avais jamais entendu un son pareil. Si insolent et pourtant si parfait. Comme si la foudre le traversait de la tête aux pieds à chaque note. Le lendemain matin, j'ai écrit une lettre que j'ai pliée en un petit avion, déterminé à le faire voler à travers cette fenêtre. Ambitieux ? Sans doute. Pas impossible. J'étais bien loin d'imaginer ce que je venais de déclencher.
J'ai eu mon premier violon à l'âge de 6 ans.
Et c'était une affaire d'amour pour moi, vous savez. Je veux dire, je voulais vraiment jouer du violon.
Vous étiez à l'époque en Israël?
Oui. Oui, je suis né là-bas. Je suis né à 25 kilomètres de Nazareth, sur le mont Carmel. Et je suis un méditerranéen. J'aime le soleil.
Vos parents sont d'origine russe?
Oui.
J'ai un peu de mal à travailler.
Mais pourquoi ?
Parce que... je n'aime pas la routine. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la même chose chaque jour, en toutes circonstances. Ni travailler le violon, ni faire de l'exercice. Je ne peux pas faire ça.
C'est quand même drôle pour un violoniste professionnel.
Quoi ?
De ne pas travailler tous les jours.
Mais je ne suis pas un violoniste.
Ivry Gitlis est l'un des meilleurs et des plus célèbres violonistes d'aujourd'hui.
Il arrive en France à l'âge de 11 ans et il entre au Conservatoire de Paris. La vie s'ouvre devant cet enfant si doué. La vie s'ouvre, c'est une jolie formule, mais bien mensongère lorsqu'une guerre se prépare.
Une guerre où les petits-enfants juifs sont désignés au bourreau. Ivry Gitlis n'a que le temps de passer en Angleterre.
Ce n'est plus le temps du violon. Ivry Gitlis polit des pièces métalliques dans une usine d'aviation.
Il revient en France en 1951 pour se présenter au concours Jacques Thibault.
Voici Monsieur Ivry Gitlis, que vous pourrez écouter dans le deuxième mouvement du concerto de Tchaïkovski.
Il ne remporte pas le prix, mais le fait qu'il ne le remporte pas fait tellement de bruit précisément que les contrats et les engagements affluent. Le nom d'Ivry Gitlis se répand en Europe, en Afrique, en Amérique et dans le monde entier.
Dans les trois années qui suivirent, Ivry enregistra 9 des grands concertiers du répertoire, qui furent tous de grands succès. La légende qui naissait fit tant de bruit qu'elle traversa l'Atlantique et alla atterrir dans les oreilles de l'idole suprême d'Ivry, Yasha Heifetz, le dieu vivant du violon. Mais aussi dans celle de l'impresario le plus illustre du monde, Sol Yurok. Il le mit aussitôt dans un avion pour New York. Ivry venait d'être catapulté en première ligue avec les meilleurs. Il allait désormais devoir se mesurer aux Isaacster, aux Menuhin, aux Milstein et à Heifetz lui-même. Yurok avait prévu qu'il jouerait le concerto de Sibelius 3 soirs de suite à Carnegie Hall, quelques jours avant Noël de 1955, sous la baguette de George Sell et accompagné du Philharmonique de New York. Le sommet de l'Everest était à portée de ses doigts.
Il y a le fameux enregistrement de ses débuts à New York, du concerto de Sibelius. Quelque chose qui était absolument saisissant. On se demande même comment on peut récupérer après avoir joué cette chose-là, de cette manière. C'est quelque chose dans lequel il y a une telle énergie et une telle élément d'électricité que j'étais ému et sidéré, littéralement. Plaqué sur ma chaise, je ne pouvais plus bouger.
Qu'avait-il fait ? Non seulement la carrière d'Ivry ne décolla pas comme on l'aurait imaginé, mais Sol Yurok, qu'il avait pourtant présenté comme s'il s'agissait de Jésus-Christ à son arrivée à New York, se débarrassa de lui peu de temps après, sans donner d'explication.
C'est quand même étonnant.
C'est sidérant, oui. Who knows?
Qui sait? Who knows? Il peut y avoir de multiples raisons.
Pendant ce temps, les médias français qui ne lisaient pas le New York Times ignoraient tout de son échec américain. Et la fascination pour cette figure flamboyante et mystérieuse ne faisait que grandir. Le jeu de cet étranger, d'un charme et d'un talent presque diabolique, provoquait des réactions émotionnelles inédites chez les auditeurs et auditrices. L'Elvis du violon. Notre petit garçon d'Haïfa était en voie de devenir un sex symbole. Il n'avait jamais été un violoniste tout à fait classique. Mais était-il encore seulement violoniste ?
Je me souviens de la première fois qu'Ivry m'a parlé de vous. Il a dit « Zubin, c'est mon frère ». Et je me demandais si vous pouviez m'aider à comprendre qui il est et qui il est devenu.
C'est un personnage complexe. Au début, il était heureux, parce qu'il faisait une très belle carrière.
Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Je ne peux pas vraiment le dire. Tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'est lui-même qui l'a provoqué. Le succès, l'échec, jouer comme un dieu, jouer sans aucune discipline.
Quand vous êtes-vous rencontré ?
Dans les années 50, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas de souvenirs précis.
Vous avez joué ensemble ?
Une fois. Ce n'était pas toujours ensemble, mais on a joué ensemble.
Où ça ?
À Philadelphie. Il fallait se concentrer sur chaque note qu'il jouait, parce que c'était imprévisible. Même lui ne savait pas où il allait.
Ce n'était pas facile de l'accompagner. Quand il parle, il ne termine jamais ses phrases. Ses phrases inachevées sont plus longues que les phrases complètes de bien d'autres gens. Et c'est aussi comme ça qu'il joue. Notre première rencontre, c'était à Zurich. Je l'accompagnais sur Tchaïkovski. Sur le dernier mouvement, il était plus rapide que tout ce que j'avais pu diriger. Mais il maîtrisait. L'orchestre était ravi.
Il ne jouait pas, mais parce qu'il le sentait comme ça.
On peut apprendre à diriger en accompagnant Ivry Gitlis.
Alors qu'Ivry n'avait pas fait un seul disque depuis presque 7 ans, ses collègues sérieux enregistraient chaque œuvre de répertoire et donnaient des centaines de conseils.
Je pense que la carrière ne l'a pas totalement intéressé. Autrement, il aurait... Si on, cette grande carrière internationale, elle demande une concentration presque totale.
À l'été 1971, Ivry prit son destin entre ses mains dans une tentative de créer son monde idéal, en invitant tous ses amis à Vence, village des Alpes-Maritimes.
Moi, je suggère qu'on fasse un comité de toute la ville.
Ivry allait faire entrer le festival de musique de Vence dans l'histoire comme le premier à mélanger tous les genres sans distinction aucune. Imaginez 30 des plus grands musiciens de la planète jouant ensemble jusqu'au petit matin, tous les soirs pendant 2 semaines. Moïse venait d'ouvrir la mer Rouge en deux. Ah, comme j'aurais aimé y être.
Vence, c'était le meilleur festival que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, c'était merveilleux. Moi, j'ai rencontré Ivry dans la rue, je crois.
Dans la rue ?
Mais 68, d'ailleurs. Comment je décrirais Ivry ? Oh là là, là 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 là. Beyond words. C'est un peu comme la musique. Comment vous pouvez expliquer la musique ? Hein ? C'est un mystère.
Tu te rends compte que j'avais des soirées là-bas ? Avec 8-9 000 personnes, c'est le Woodstock de la Belgique.
La police est venue m'a demandé, alors monsieur, ce soir, qu'est-ce que vous avez, du classique ou du rock ?
Au terme de la 5e année du festival, la municipalité, qui considérait n'avoir pas assez de contrôle sur l'événement, menaça de couper son budget en deux dans l'espoir de reprendre la main. Mais Ivry accepte et propose un nouveau programme une semaine plus tard. Le conseil municipal trouvait maintenant que ces têtes d'affiche manquaient de prestige.
Je vous appelle de têtes d'affiche, alors je voudrais bien savoir si Jesse Norman, qui chante dans le monde entier, Barbara Hendricks, qui va pour un concert même à Tokyo avec Karajan et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, est-ce que c'est pas assez bon ? C'est tout.
Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, la ville décida d'y mettre un terme définitif.
Frédéric Lys, vous avez connu Léo lors de l'enregistrement du morceau Les Étrangers, c'est bien ça?
Ben, je l'ai connu à ce moment-là déjà, mais je le connaissais avant, parce que je ne serais pas allé là-bas comme ça, avec mon violon dans la main, à minuit et demi, à la fin d'un... pour faire une audition.
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Léo Ferré?
Ah, c'était des circonstances tout à fait spéciales, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on était tous les deux des gens très spéciaux. C'est-à-dire que, en vérité, moi, je l'ai rencontré, je le connaissais de nom, je le connaissais comme ça. Je ne connaissais pas tellement beaucoup de choses à propos de lui, je ne connaissais pas tellement ni sur son son, particulièrement. Je ne suis pas, quelqu'un qui... très chanson dans ce sens-là. Il y a quelques chanteurs ici et là, ici et d'ailleurs, que j'aimais comme ça, mais je ne connaissais pas tellement. Puis un jour, j'ouvre la télévision, puis je vois cette tête qui occupait tout l'écran de la télévision. Cette tête incroyable qui était la sienne. Et c'est comme ça. Puis à ce moment-là, il y avait aussi toute cette histoire avec sa guenon et tout ça, et j'ai lu à propos de ça, et puis j'ai vu cette tête comme ça. Ça m'a fait quelque chose. Et comme par hasard, en même temps, peu de temps après, on était les deux invités principaux d'un grand échiquier de Jacques Chancel. Et moi, j'avais créé une sorte de... J'aime pas le mot festival, mais c'était devenu un grand festival, Avance, dans le Midi. Et on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés là-bas, sur le... Et puis, ça a tout de suite accroché. Vous savez, c'est comme ça, ou ça passe ou ça passe pas, et puis c'était là. C'était là, et comme avec Léo, il n'y avait pas de vous, il y avait tu. Et puis c'était comme ça, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais à la fin du mois de juillet? C'était là où il y avait... Il me dit, pour toi, je viens jusqu'à la fin du monde. Il me dit, t'as pas besoin d'aller si loin, tu n'as que juste venir jusqu'à Vence. Et il est venu, c'était 4 semaines avant, je veux dire comme ça. Alors il est venu, et puis il est venu avec son sonorisateur, puis ses assistants, de tout un groupe. Et j'ai dû ajouter une soirée pour lui, parce que c'était déjà tout était fixé. Et pendant toute la période les 10 jours que ça durait, il a fait un temps absolument extraordinaire, merveilleux, comme il fait dans le Midi. Et juste ce jour-là, le jour ajouté pour lui, il y avait le déluge. C'est normal aussi, pour des gens comme nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, ou de moins bien, je veux dire. Il y avait le déluge. Moi, je montais sur le col de Vence pour aller là-bas, et je ne pouvais même pas voir le bout de ma voiture. Il y avait une telle pluie. Et j'arrive là-haut, et il y avait déjà 200 ou 300 voitures comme ça qui étaient là, entassées l'une à côté de l'autre. Et puis les machinistes, les électriciens, tout ça, sous la tente, comme ça, etc. Mais on n'a pas pu faire ce concert là-bas, parce qu'ils ont dit que si on fait que la pluie tombe sur les machines, tout ça va éclater, on ne peut pas. Alors finalement, avec quelques centaines de personnes qui étaient là, comme ça, on est descendu en ville, on a essayé de trouver une solution. Son organisateur devait aller à, je sais pas, Châteauroux ou quelque chose pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, ses assistants, ses machinistes, tout ça, ils ont tous décidé, on reste là-bas. Et le lendemain, il a fait beau et on a fait un concert là-haut, sur le col de Vence. Il y avait 4500 personnes. Et avec Léo... Et c'était une histoire d'amour, je veux dire, vraiment dans un sens très curieux comme ça, parce que je crois que personne ne peut nous accuser d'avoir de on était deux hommes plus ou moins animalesques. Et on est devenus des amis, comme ça, je sais pas, c'est quelque chose, ça arrive quelquefois dans la vie. Et puis le lendemain, on a fait comme ça, disons que 80%, disons, des gens sont sûrement venus ce soir-là pour Léo, parce que c'était vraiment sa soirée. Et puis à un moment, Léo m'a demandé à la fin du concert, il m'a dit, est-ce que tu joues la sonate de César Franck? J'ai dit, oui, écoute, n'importe quel violoniste plus ou moins en état de jouer. est-ce que tu me la jouerais ? Alors, je l'ai joué pour lui, d'ailleurs, autant que je me rappelle ce soir-là. J'ai joué ça avec deux pianistes différents. Il y avait une partie, les deux premières parties, et où, enfin, deux des mouvements étaient avec Georges Pludermacher, qui est un magnifique pianiste. Et puis les deux autres parties, je les jouais avec Martha Argerich, qui est peut-être la plus fabuleuse pianiste, c'est l'impérateur, l'impérateur, l'impératrice du piano d'aujourd'hui. Et on a joué ça pour lui, et voilà, on a joué. Et la chose la plus intéressante, que ce public-là, qui est venu évidemment pour la plupart, pour Léo, ce soir-là, eh bien, il y avait des gens dedans qui ont été convertis aux deux, c'est-à-dire dans le sens que ces enfants, c'est ce qu'on appelle la musique classique, entre parenthèses, et généralement les chansons, etc., c'est entre parenthèses qu'on appelle plutôt variété, ce que vous voulez. Enfin bon, Léo, ce n'est pas ni la variété, ni le classique, c'est Léo, c'est une chose à part, comme toutes les belles choses, comme Michelangelo, comme la nature, comme les arbres, comme le chêne millénaire sous lequel on chantait, justement, on jouait. Et il y avait une grande partie de ce public, pour la première fois, on a entendu ce qu'on appelle, justement, musique classique. Ils ont dit, mais c'est pas si mal que ça. Oui, et ça, c'était le Festival de Vence. Mais alors, écoutez, c'était comme ça. Léo est venu, et puis on est resté des amis. Et il a même commencé à un moment à écrire un concerto pour moi, vous savez. Et puis, là, avec les étrangers, ben, les étrangers, c'était une autre chose, parce que j'ai fait deux soirées au Théâtre des Champs-Élysées, où j'avais invité quelques autres musiciens, etc. Et j'ai invité, évidemment, aussi Léo, qui allait venir. Et puis, je suis passé ce soir-là, comme ça, tard, il était tard, après une répétition, j'avais mon violon avec moi. Parce qu'il avait besoin de musique qu'il allait faire pour la première fois. D'ailleurs, je crois que c'était la première fois qu'il allait diriger un orchestre. Et c'était le Solisti Veneti, qui était un très célèbre ensemble de musique de orchestre de chambre. Et voilà. Et puis, j'étais en train de finir l'enregistrement, etc. Puis tout d'un coup, il me dit, je sais pas, est-ce que tu ne pourrais pas juste jouer quelque chose ? Il dit, oh, mais il était 1h du matin, qui veut jouer ? Alors finalement, j'ai pris le violon, puis je n'ai jamais entendu cette chanson. On m'a mis les casques dans l'oreille, puis j'ai improvisé là-dessus. Ben oui, ben oui. Et alors, c'était pas trop mal, apparemment. J'ai dit, peut-être que je peux faire encore mieux. Je sais pas, je vais réimproviser. Et puis, ils ont après mélangé les deux improvisations sur les choses. Et puis voilà, c'est devenu... Dans 10 000 ans. Vous savez, t'as fini comme ça.
Les étrangers. Regarde-la ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de tantôt te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chichi, mais ce genre de bateau, ça drague pas dans Paris. T'as les yeux de la mer, et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme en avril 68, au chute tu t'en souviens, la mer, on s'en foutait, on était trois copains au bout de 1000 nuits, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, en Bretagne y a toujours la crêperie d'à côté, et un marin qui te file une bonne crêpe
en ciment, tellement il y a fourré des tonnes de sentiments. Regarde la taquille à la mer en aller, la marée de tantôt te la tout en jupé. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as les yeux comme ces rocs vêtus de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'a accroché deux encres aux doigts de chair, et les lignes de ta main s'assient au fond de la mer. C'est pas comme en avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains au bout de mille nuits, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, oh mon chien c'est pareil, on les regarde naviguer dans les rues de l'Orient, presque pour les sauver, il y a toujours un marin qui rallume. Regarde la tabarre comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros, très chic. La mer a ses anglais avec le drapeau noir, on dirait 68 qui s'en vient du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé, si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. C'est pas comme en avril 68, dans ce bar adossé au destin de la rue. Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 000, l'eau chute, t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là, la mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie, et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie, et les soirs d'illusion avec la nuit qui va dans Brest et dans l'Orient, on pleure et on s'en va. Le CHU, l'an 10 000, tu te rappelles? Le CHU, le CHU, l'an 10 000, 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 l'an 10 000.
C'est le plus grand violoniste actuel depuis la mort de Heifetz. Il s'appelle Ivry Gitlis.
Oui, parlez-moi de ce concert, de ce récital au théâtre Déjazé, place de la République, la surprise que vous lui avez faite. Il semblait parfaitement et totalement bouleversé.
Oui, oui, mais c'était assez bouleversant, hein, pour moi aussi d'ailleurs. Je ne me rappelle pas si ce n'était pas un anniversaire ou son anniversaire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bon, enfin, de toute façon. Ben écoutez, ben, qu'est-ce que ben, j'ai bon, je ben, je suis arrivé par le coulisse, enfin, derrière lui, et il a chanté seul, il n'y avait pas un orchestre avec lui, mais il chantait avec la bande comme accompagnement, la bande magnétique, enfin la bande de cette chanson, Les étrangers. Et moi, je me suis faufilé derrière comme ça, avec mon violon. Et dans le disque, évidemment, il y avait mon violon déjà. Bon. Et pendant qu'il chantait ça, j'ai joué derrière lui. Et il ne s'est pas tout à fait rendu compte au début, parce qu'il croyait que c'était... Il entendait l'enregistrement dans le disque où je jouais avec lui. D'ailleurs, je me demande si ça n'a même pas été filmé aussi, quelqu'un a dû le filmer. Ce serait intéressant, j'aimerais bien voir cette copie-là. Mais ils l'ont enregistré aussi, et on fait un disque de cette... re-disque. Alors, il y avait donc trois violons, puisqu'il y avait déjà deux versions de mon jeu. Et puis, comme ça, j'ai continué à jouer, puis peu à peu, il a dû se rendre compte que quelque chose d'étrange se passait, parce que je crois que, si je me rappelle bien, je l'ai quasiment entouré avec mon violon, et je ne sais pas comment j'ai fait... Enfin, Et on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Je crois qu'il y avait quelques petites larmes ici et là, oui. Et on peut dire je t'aime, je te hais, je vis, je meurs. Il les a très bien mis ensemble. Merci Léo, non, il était formidable.
Au début des années 80, il passait à la télé française un soir sur deux. Téléfilms, émissions de variété et bien d'autres choses encore. À tel point qu'il était devenu une véritable célébrité du divertissement populaire. Puis un jour, vint une invitation inattendue. En décembre 1982, Zubin Mehta réussit un coup inédit dans l'histoire de la musique. 7 des plus grands violonistes du monde allaient partager la scène de Philharmonique d'Israël pendant toute une semaine pour célébrer le centenaire de son fondateur, Bronislav Obermann. Dans un article du New York Times, Zubin alla même jusqu'à rebaptiser l'événement Star Wars. Mais le clou du spectacle fut la performance historique du concerto pour 4 violons de Vivaldi, par une brochette de titan comme on n'en avait encore jamais vu.
Il y a une expérience que je n'oublierai jamais.
Son interprétation du concerto de Bartok a été extraordinaire. C'est une œuvre que j'ai souvent jouée avec Yehudi Menuhin, qui lui-même était un disciple de Bartok. Et je dois dire que...
Si Bartok avait pu ressusciter, il aurait dit « c'est comme ça qu'il faut le jouer ». C'était incroyable. Le plus extraordinaire que j'ai jamais entendu. De toutes les interprétations de grands violonistes, de toutes les versions enregistrées, c'était la meilleure.
Je suppose que quelqu'un a dû l'enregistrer pour les archives de l'orchestre.
Sûrement. Il y a même un disque, non?
De ce concert? Avec le Israël Philharmonic et Zubin?
Le disque du festival Obermann, qui était l'une des meilleures ventes de l'histoire de la Deutsche Grammophon, n'allait pas être trop difficile à trouver. Mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque performance d'Ivry en solo. D'ailleurs, il n'était même pas sur la photo avec ses copains.
L'événement a été intégralement filmé. Chaque instant, chaque seconde.
Même le concert d'Ivry ?
Absolument.
Après avoir scruté tous ces documents en long, en large et en travers, cette photo, qui m'a été envoyée par les archives du Philharmonique, semble être la seule preuve qu'Ivry aussi aurait joué un concerto solo durant l'événement. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Est-ce qu'on l'aurait volontairement effacé? Combien d'autres trésors comme celui-ci, que personne n'entendra jamais, s'étaient perdus dans la nature? À l'été 1989, un collectionneur allemand se présente avec une bande enregistrée clandestinement depuis la radio américaine 40 ans plus tôt. Vous vous souvenez du mystérieux échec de son Sibelius à New York? Je me rendis soudain compte que jusqu'ici, personne, pas même Ivry, n'avait entendu ce qu'il considérait comme étant sa plus grande occasion manquée. Mais l'occasion avait-elle vraiment été manquée? Écoutez bien et dites-le-moi.
Je n'ai jamais réalisé qui j'étais. Enfin, je sais bien que je suis quelqu'un.
Jusqu'à quel moment? Depuis quand?
Jamais. Pas même aujourd'hui. Mais je m'en rends compte lorsque je m'entends. J'entends ce jeu et je me dis qu'il est incroyable.
Pour la première fois depuis qu'on s'était rencontrés 4 ans plus tôt, je m'étais absenté plusieurs semaines et il m'est soudain venu à l'esprit qu'Ivry allait bientôt fêter ses 97 ans.
La dernière fois que vous avez joué ensemble avec Zubin, Ivry et les autres, c'était au Festival Ubermann en 1987, je crois. Mais quand j'ai cherché d'autres collaborations d'Ivry avec le Israel Philharmonic, je n'ai presque rien trouvé. Et ça m'étonne.
Parfois, il vaut mieux ne rien dire. J'espère que tu me comprends.
Comment ça se fait que vous n'ayez pas plus joué ensemble depuis des décennies?
Je ne veux pas parler de ça. C'est trop douloureux. Et ça lui ferait mal à lui aussi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est que je l'aime.
Et il s'est mis à pleurer.
Il a pleuré?
Oui.
Vraiment?
Il s'est mis à pleurer, il a baissé les yeux et il a dit « Je ne veux pas parler de ça parce que ça me fait trop mal. »
Vraiment? Ça me touche très profondément. Tu lui as demandé pourquoi on n'avait pas joué plus souvent ensemble? Je ne sais pas. Moi aussi, je me suis posé la question. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qu'on ne pouvait pas vraiment contrôler ni diriger. Ce n'est pas que je me rebellais tout le temps, mais j'étais simplement...
inattendu, quelque part.
8 ans étaient passés depuis l'avion en papier.
Qu'est-ce que c'est, celle-là?
C'est Bartok.
My God.
Avec son écriture. Regarde ça.
J'en revenais pas. 5 ans que je retournais la terre entière à la recherche de ces bandes disparues du Festival Ubermann, traquant quiconque avait eu un lien avec la production du festival. Peter Ziegler avait débarqué chez Ivry un jour de 1989 pour récupérer une cassette d'Eifetz qu'il lui avait prêtée.
Il m'a dit, Peter, il faut que tu fouilles dans mes cassettes, je ne sais pas où elle est. J'ai regardé et je l'ai tout de suite trouvé. Yasha Heifetz. Et puis j'ai dit... Ivry, qu'est-ce que c'est ? Et il m'a répondu, oh, c'est le festival Huberman. J'y ai joué, ils m'ont envoyé cette cassette. Je lui ai demandé si je pouvais la prendre. Il a dit, oui, vas-y.
Il te l'a donné ?
Oui, tout de suite.
Est-ce qu'il savait qu'il n'existait pas d'autres copies ?
Non, pas du tout.
La dernière fois qu'on s'est vu, vous avez été le premier à me parler du concerto de Bartok qu'a joué Ivry au festival Huberman. Je me suis demandé, et il se le demandait aussi, pourquoi son Bartok était totalement absent de la captation qui a été publiée.
Je n'ai rien à voir avec cette décision.
Il y a un mois, après 6 ans de recherche, j'ai trouvé la seule copie qui a été conservée.
Bravo.
C'est fantastique. Je...
Ivry n'a jamais joué une seule fausse note. Il jouait les bonnes notes, mais à sa manière, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Il était comme ça. La musique sortait de lui, comme ça. Il avait le jeu le plus sexy qui soit. Mon Dieu, les gens devenaient fous, rien qu'en entendant son vibrato et son phrasé. Son Bartok était extraordinaire pour nous tous. Parce qu'à sa manière, il en a fait l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps. Si des enregistrements comme le Bartok étaient publiés, il serait enfin reconnu.
Enfin réussi à traverser ce foutu désert du Sinaï. Ce que tu laisses derrière toi est infiniment plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Ivry Gitlis est mort en décembre 2020. Et à la radio, Nina Simone chantait « I shall be released ». J'ai probablement pas encore le recul nécessaire pour mesurer l'impact que ces années passées avec Ivry ont eu sur ma vie. Alors, faute de meilleures conclusions, Merci, mon vieux.
C'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque. L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.
Succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant, tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire au suivant, et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant, au suivant, au suivant. Un jour, je ne ferai cul de chatte, ou bonne sœur, ou pendu, enfin de ces machins, où je ne serai jamais plus le suivant, le suivant.
Un métier, ce sont des milliers d'amis qui m'ont dit de chanter, me donnant ma chance, ils m'ont libéré des radios de grande audience où j'étais censuré. J'avais tant de mots à vous raconter, on me demande des rythmes nouveaux pour danser, j'avais des refrains à vous composer, mais on me demande à frapper dans les mains pour changer. La mode surveille et m'impose son règlement. Une nouveauté, toujours attendue, pourrait étonner tous ceux qui ont tout entendu. J'avais tant de mots à vous raconter, on me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer, mais on me demande à frapper dans les mains pour changer. Pas de chansons tristes, il faut oublier, y compris dans la playlist, un chant de qualité. Sans la poésie, l'art est dépassé, c'est l'auditeur qui choisit ce qu'on a décidé. J'avais tant de mots à vous raconter, on me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer, mais on me demande à frapper dans les mains pour changer. Semble condamné au profit de lois obscures d'intérêts financiers. Notre beau langage, déjà moribond, se préserve du naufrage en comptant ses chansons. J'avais tant de mots à vous raconter, on me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer, mais on me demande à frapper dans les mains pour changer. J'aurais dû ranger mes petits couplets et m'en retourner gentiment sur d'autres projets. Mais en vérité, chacun son chemin, on fait différents métiers, moi je fais le mien. J'avais tant de mots à vous raconter, on me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer, mais on demande à frapper dans les mains pour changer. J'avais tant de mots à vous raconter, on me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer, mais on demande à frapper dans les mains pour changer.
Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
Dans les flancs du Madre de Dios, gonflé comme une outre d'amour, je terminais ma carrière de marin pour devenir pirate, au début à la cale, les ailes de la mort me frôlèrent. La mort, c'était Johannes de Hambourg, le finisseur, qui avait contracté durant son séjour aux galères une maladie qu'on appelle le mépris de la vie, de la sienne et de celle des autres. La mort, c'était Angot, qui pourtant n'aimait pas le sang. À l'abordage, j'avais remarqué le chic avec lequel il évitait toute effusion. Par contre, il noyait très bien. Parmi cet équipage digne d'intérêt, je me souviens aussi de Rapace, le trop viril qui violait ses dames par constitution et par devoir, plus que par goût. Et au milieu de tous ces hommes sans foi ni loi, il y avait un dieu. Maître avant dieu, c'était Santa Maria. Avec lui, ce bateau pirate était devenu une épopée à voile. Il dressait ses brutes à coups de lyrisme, de poésie et de musique. Je me souviens un soir, sur le gaillard d'avant, il chanta.
Donnez-moi une femme triste, riche de ses amours déçus. La maison au bord de la piste, la bonne hôtesse, le lait cru qui remonte chargé de pommes d'un jardin déjà dans l'hiver, qui rit peu, qui aime les hommes et se souvient qu'elle a souffert. Donnez-moi une femme lente, donnez-moi des silences vrais, Donnez-moi, jamais qui ne mente, la vraie confiance, les j'aimais. Bruit d'horloge allant dans l'ombre, ce qu'on se fait comme raison, chaland fidèle qui ne sombre jamais, ton beau penchant si long. Puis, feuilles de menthe, vieux meubles, vraie confidence, vrai café, belle et lourde comme un vieux meuble, donnez-vous soudain tout à fait. Ma main protège cette lampe, donnez-vous lente et j'y croirai. Il y a du gel à tes tempes, dans tes yeux monte une marée. Tout ment, tu sais, d'aller trop vite, au soupir jamais envolé. J'absous ta tristesse, j'hésite, donnez-moi cette voix voilée. Du mal que l'on vous fit naguère, vous me parlerez, vos amants, où vous vous tairez, puis la guerre, vous parlerez, tout ce qui ment, les cavalcades dans la plaine, les beaux gosses, les orphéons, derrière le rideau des peines, au miracle des abandons. Le manteau dans l'eau, le veuvage, jetez votre âge dans ce bal, faites sarment de votre mal pour brûler, prenez vos tourments.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
A déjanté sur ton corps animal. Dans cette chambre où les nuits ne durent pas plus d'un quart d'heure. Juste après le péage, assurer l'extravail et remettre à zéro l'aiguille sur le compteur. Ton blues a dérapé sur mon corps de chacal. Dans cet hôtel paumé au mur glacé d'ennui. Et pendant que le lit croise l'aéropostale, reprends ton fric, aujourd'hui c'est gratuit. Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas, j'ai mon train qui dérape. Lorelai, Lorelai, et je suis comme un cobaye, casse les fées d'une sapaille. Arrache mon armure dans un geste un peu lourd, en me disant reviens maintenant je te connais. Tu me rappelles mes amants Rubard et Arambourg, quand j'étais l'orpheline aux yeux de feu follet. Tu me rappelles mes amants perdus dans la tempête, avec le cœur naufrage au bout des barres de nuit. Et tu me dis reviens, je suis ton jour de fête, reviens jouir mon amour dans ma bouche agonie. Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Lorelai, Lorelai, et je suis comme un cobaye, cache mes fées du champagne. dégrafer nos cœurs de cannibales. Dans ce drame un peu triste où meurent tous les Shakespeare, le rouge de nos viandes sur le noir sidéral, le rouge de nos désirs sur l'envers de nos cuirs. Et je te dis reviens maintenant c'est mon tour de t'offrir le voyage pour les Galapagos. Et je te dis reviens on s'en va mon amour, recoller du soleil sur nos ailes d'Albatros. Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Lorelai, Lorelai, et je suis comme un cobaye. Qu'est-ce qui fait toute sa pâte. Lorelai, Lorelai. Lorelai, bonheur, c'est la mer à boire, je l'ai bu. Ça m'a fait un effet bizarre, ça m'a plu. C'est rigolo avec des bulles, c'est vrai que c'est marrant comme tout. Le bonheur, c'est à peu près tout. Le bonheur, c'est bonjour, bonsoir, je l'ai dit. Ça m'en a fait broyer du noir dans la nuit. Ça m'en a fait pleurer des larmes. C'est vrai que c'est marrant comme tout. Quand j'y pense, ça valait pas le coup. Le bonheur, c'est une drôle d'histoire, je l'ai lu. Ça m'a fait un trou de mémoire, rien de plus. Au début, je devinais la fin, c'est vrai que c'est marrant comme tout. Le bonheur, ça vaut pas un clou. Le bonheur, c'est du cinéma, j'en ai fait. J'arrive encore, attendez-moi, s'il vous plaît. Mais j'ai perdu la vocation, c'est vrai que c'est marrant comme tout. Le bonheur, ça ne dit plus rien du tout.
Je me suis engagé pour l'amour d'une blonde. Je me suis engagé pour l'amour d'une blonde. C'est pas pour un baiser qu'un jour elle m'a donné, mais c'est pour l'anneau d'or qu'elle me refuse encore. Dans mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. Dans mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. Mon capitaine me dit, où vas-tu sans souci? Je vais dans le vallon rejoindre mon bataillon. Soldat, t'as du chagrin, pour l'amour de ta blonde, soldat, t'as du chagrin. Pour l'amour de ta blonde, elle n'est pas digne de toi. La preuve est à mon doigt, tu vois bien clairement que je suis son amant. Là-haut, dans ce vert près, il y a une fontaine. Là-haut, dans ce vert près, il y a une fontaine. J'ai mis mon habit bas, mon sabre au bout de mon bras. Nous nous sommes battus là comme de vaillants soldats. Au premier coup porté, j'ai tué mon capitaine. Au premier coup porté, j'ai tué mon capitaine. Mon capitaine est mort, et moi je vis encore. Hélas, avant trois jours, ce sera à mon tour. Ceux-là qui me tueront, ce seront mes camarades. Ceux-là qui me tueront, ce seront mes camarades. Avec un mouchoir bleu, ils me banderont les yeux pour me faire mourir sans me faire souffrir. Soldats de mon pays, ne le dites pas à ma mère. Soldats de mon pays, ne le dites pas à ma mère. Mais dites-lui plutôt que je suis à Bordeaux, prisonnier des Anglais, qu'elle ne reverra jamais.
What's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul. You got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's alright. It'll buy some time. Kitchen door.
Oh,
Sur la vieille photo jaunie, c'est vos premières vacances. Vous partez dans l'insouciance sur deux vélos pourris. De tes mains, tu as cousu pour dormir une tente. Vous arrivez incongru sur une plage de Charente. Les bourges ont peur des prolos qui envahissent leur enclos. Mes primorgues compassés, on vous nomme congé payé. Juste avant, c'était 36, les prolos font la grève. Pour un peu plus de justice, plus de sous, plus de rêves. Devant l'usine occupée, à travers les grilles fermées. Chaque jour tu passais fidèle à mon père, sa gamelle. Les hommes fatigués sourient, ils défient l'ordre établi, venu des bals populaires, des musiciens jouent des airs. Je vois dans le filigrane de la vieille photo jaunie, derrière vos vieilles bécanes défiler tous vos acquis. Toutes les générations têtues jamais vaincues, leur lutte contre l'oppression, le front populaire, la sécu. Mais la photo s'obscurcit, vos victoires sont bafouées, le monde regarde suffoqué revenir la barbarie.
Kabyle de la chapelle et des quais de Javel, homme de pays loin, cobaye des colonies, doux petit musicien, soleil adolescent de la porte d'Italie, Boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, Polac du Marais, du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou du Cap Finistère, rescapé de Franco,
et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des eaux. Étranger, esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquez chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Étrange. Étrange. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre. Et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville. Vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez.
À ma porte, je suis sorti de mon lit. Ils sont entrés dans ma chambre, ils m'ont dit de m'habiller. Le soleil par la fenêtre ruisselait sur le plancher. Ils m'ont dit, mets tes chaussures. On chantait sur le palier. J'ai descendu les marches entre leurs deux uniformes, adossés à une borne, un clochard se réveillait. Ils me donneront la fièvre, la lumière dans les yeux. Ils me casseront les jambes à coups de souliers ferrés. Et ils m'ont traîné au loin dans une grande salle rouge. Et ils m'ont jeté dans le coin comme un meuble, comme un chien. Ils m'ont demandé mon âge, j'ai répondu 27 ans. Ils ont écrit des mensonges sur des registres pesants. Ils voulaient que je répète ce que j'avais chanté. Il y avait une mouche sur la manche du greffier. Qui vous a donné le droit de juger votre prochain? Votre robe de drap noir ou vos figures de deuil? Ils m'ont remis dans la cage, ils reviennent tous les jours. Ils veulent que je leur parle, je... Je me moque des discours, je me moque des menaces, je me moque de vos coups. Le soleil vient à 7 heures m'éveiller dans mon cachot. Un jour, avant le soleil, quelqu'un viendra me chercher. On coupera ma chemise, on me liera les poignets. Si vous voulez que je vive, mettez-moi en liberté. Si vous voulez que je meure, à quoi bon me torturer? Car je ne dirai rien, je n'ai rien à dire. Je crois ce que j'aime, et vous le savez bien.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Je suis de nulle part, c'est un endroit que je vous recommande, blague à part. Je suis d'aucun lieu, je suis d'aucune lande. J'ai pas de patrie, j'ai pas d'ethnie à défendre. Dans le vaste monde, y a pas un coin, une petite madeleine géographique qui me ferait chialer quand j'en suis loin, qui me réveillerait le nostalgique. Y a nulle part un petit village où mon avenir se détermine, où l'on m'attend pour mon mariage avec une vague arrière-cousine. Je suis de nulle part, c'est un endroit que je vous recommande, blague à part. Je suis d'aucun lieu, je suis d'aucune lande. J'ai que les tribus que je m'attribue sans esclandre. Y a pas qu'appui sur mes épaules, le regard de 30 générations encadré au mur de ma piole, histoire de maintenir la pression. Y a nulle part un joli cimetière où quelques ancêtres victimes d'un vrai massacre ethnocidaire insidieusement me pousse au crime. Je suis de nulle part, c'est un endroit que je vous recommande, blague à part. Je suis d'aucun lieu, je suis d'aucune langue. J'ai un faciès rond comme deux fesses à refendre. Pas de clocher, pas de minaret, pas de synagogue ni de sanctuaire qui me rappellerait sans arrêt à quel troupeau faut que je me réfère. Et si tu regardes mon patronyme, y a toutes les chances pour que tu sèches à me trouver des origines entre l'Alsace et Marrakech. Je suis de nulle part, c'est un endroit que je vous recommande, blague à part. Je suis d'aucun lieu, je suis d'aucune lande. Mais j'ai partout des tas d'amis qui me disent t'en fais pas mon petit gars, on t'hébergera, c'est promis, le jour où Sarkozy.
Oui, je suis là.
Tu peux pas dire ça.
Bah, non, mais je vais me gêner.
Mais, non, mais c'est. Non, mais. Non, mais, non, mais c'est simplement que.
Quoi?
Il est déjà passé.
Ah. Ah ouais, du coup, t'as peur que ça fasse un petit peu chanson. Chanson périmée, quoi. Là. Mais d'un autre côté, ça m'embête. Moi, j'ai pas envie de l'enlever, cette chanson. Écoute, voilà. On la met à la fin, puis c'est tout. Ouais, on fait comme ça.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée bas, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir le plat pays qui est le mien. avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest. Écoutez-le vouloir le plat pays qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien. Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
Elle a des larmes plein les yeux. Elle a 18-20 ans à voir, jamais rien vu si malheureux. Elle a un manteau gris marmotte, des pompes à fermeture éclair, un col en fausse fourrure palote, déglinguée comme une serpillière. La tristesse et l'ennui des labes, sa tronche et sa robe à carreaux. Elle a la peau couleur de câble, ses cheveux tombent comme des rideaux. Une voix qui fait un bruit dévié, que le fric est dur à obtenir, qu'elle paye trop cher pour son pucier, que les types sont des ordures. C'est pas parce qu'ils ont du pognon qu'ils peuvent vous chier sur la figure, qu'ils peuvent vous balancer des nions.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent. Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. ensemble, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire. Bonsoir à toutes et tous, 21e émission de cette année 2026, émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Sylvie qui est aux manettes. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
L'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, émission, trait d'union, femmeslibres.blogspot.com. Et en allant sur notre blog, vous pouvez réécouter les émissions et avoir le programme. Pensez aussi à nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors, le programme de ce soir. De Ève à Philomène sans oublier les autres. Portrait de Marguerite Porrette, née vers 1250 et décédée en 1310. Femme de lettres, mystique, béguine, brûlée pour hérésie. Ça va tout à fait dans notre émission de femmes qui a été brûlée et en plus qui était contre les clercs, l'église et tout ça. Lydia Adjara ensuite, J'étais son esclave, édition City 2025. C'est un enregistrement réalisé en coopération avec Mariama Keïta de l'émission Pas de quartier. Lydia Adjara a passé plus de 20 ans au cœur de la secte Raël. Elle a vécu sous l'emprise du gourou qui en avait fait son esclave, et en fait esclave sexuel aussi. Aujourd'hui, elle témoigne en espérant que son récit aide d'autres victimes à se libérer et à parler. Et ensuite, nous écouterons Marie-Elsa Sgualdo qui présente son film « À bras le corps ». C'est un film qui est sorti le 27 mai, donc la semaine dernière. Et la réalisatrice nous parle de cette jeune fille de 15 ans, violée, enceinte, et qui défie la communauté protestante répressive de son village. Elle affronte l'hypocrisie morale et le spectre de la Seconde Guerre mondiale, et elle transforme son traumatisme en capacité d'émancipation.
De Ève à Philomène, sans oublier les autres. Philomène, c'est mon arrière-grand-mère. Elle était chef de gare dans les années 1900 et on disait d'elle que c'était une femme de tête qui faisait un métier d'homme. Il y aurait donc des femmes sans tête et des métiers de femmes. Ma rubrique va à la rencontre de toutes ces femmes sans tête qui, depuis la nuit des temps, ont été invisibilisées.